BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Quelle semaine pour les crypto-monnaies, le Bitcoin en particulier. On va en parler avec nos trois invités. Charlie Perrault, journaliste au Journal du Net, en plateau avec moi. Bonsoir.
Bonsoir.
Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Bonjour, merci d'être avec nous en duplex. Et bonjour. Vincent Gann, analyste technique chez TradingView, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Vincent et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. On va commencer avec vous, Owen. En quelques jours, le marché a subi une baisse très violente. On va revenir évidemment sur les raisons de cette baisse. On va juste rappeler que c'est pas la première fois. Certains nous ont dit que c'était exceptionnel. J'ai relevé des baisses assez spectaculaires. Par exemple, fin 2018, 83,6%. Début 2020, 60,8%. Ce ne sont que quelques exemples, mais on a eu des baisses beaucoup plus importantes. Je crois que la volatilité, ça fait partie de l'ADN des cryptos.
Alors, totalement, oui. C'est ce qui caractérise bien ce marché de par sa jeunesse. Bien que ça évolue au fil du temps. Après, ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'on parle d'une baisse, mais on a besoin d'avoir un rapport au temps. C'est-à-dire que la baisse de 83% que vous venez de donner, c'était pas sur 45 minutes comme le Bitcoin a été touché il y a environ 2 jours. C'était le 19 mai. Du coup, il y a vraiment beaucoup d'actualités et plein de raisons qui font que les cours se régulent. Naturellement, on était dans une hausse assez violente et continue depuis un moment. Donc, les baisses sont également virulentes. Ça va dans les deux sens. On était toujours porté par Elon Musk qui avait donné beaucoup d'énergie au marché et qui finalement annonce que Tesla ne va plus du moins accepter le Bitcoin. Ce qui a inversé un petit peu le mood qu'avait le marché à ce moment-là. En parallèle de ça, on a Reuters qui, eux, ont annoncé il y a quelques jours que la Chine allait prendre des nouvelles sanctions contre les investisseurs chinois qui s'intéressent au Bitcoin, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de nouvelle actualité en Chine depuis 2017, bien que 2 minutes avant notre plateau, 2 minutes avant que vous m'appeliez, la Chine vient de prendre une nouvelle position et le Bitcoin est en train de perdre quelques points actuellement pendant que je vous parle. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu une baisse. On a, je vais prendre l'Ether en exemple, l'Ether qui a suivi à peu près la même baisse que le Bitcoin, qui est parti de 4 000 $ et qui aujourd'hui, pendant que je vous parle, est autour des 2 600 $, 2 700 $. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé entre ces deux valeurs. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de baisse parce qu'il y a eu des vendeurs, mais il y a eu un moment de panique. C'est-à-dire des gens qui sont venus vendre au marché, non plus pour tirer le meilleur prix de leur crypto-monnaie, mais pour sortir, pour liquider leur position. Et en vendant au marché, ça a créé des chandelles de baisse, chandelles qui ont amené l'Ether jusqu'à 1 880 $ pendant quelques secondes. C'est-à-dire qu'en moins de 3 minutes, l'Ether était passé de 2 400 $ à 1 800 pour revenir à 2 200. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a eu une cascade d'engagement et qu'il y a certains traders qui utilisent des effets de levier x50 à x100, oui, sur les crypto-monnaies, bien que déjà très volatiles, il y a des gens qui veulent encore accélérer ce mouvement-là et ces personnes se sont fait liquider. Ça a touché à peu près 900 000 traders qui ont voulu augmenter encore plus la volatilité sur ce marché et qui ont donc eu des margin calls et instantanément des liquidations de leurs positions, ce qui a touché toutes les crypto-monnaies et qui a fait un mouvement vraiment très virulent pendant quelques minutes en début d'après-midi, il y a 48 heures.
On va parler de la Chine dans un instant avec Charlie Perrault, mais tout d'abord, on va regarder la semaine écoulée d'un point de vue technique avec Vincent Gann qui est au téléphone avec nous. Évidemment, quand on regarde les graphiques, c'est assez spectaculaire, Vincent. Vincent Gann. On a perdu Vincent. Alors, on va parler de la Chine directement avec Charlie Perrault qui est en plateau avec moi. L'article de Reuters, dans quelle mesure est-ce qu'il a relancé les inquiétudes? On va quand même le préciser, ça paraît un peu hypocrite, mais la Chine est sur le point de lancer sa monnaie digitale.
Voilà, exactement. Le timing est bien choisi, on va dire, de la part de la Chine, puisqu'ils sont en train de faire des expérimentations maintenant à grande échelle sur ce fameux yuan numérique. Effectivement, là, ils ont donc Reuters a publié cette dépêche cette semaine en disant que la Chine interdisait aux institutions financières, aux établissements de paiement, de toucher en gros aux cryptos, que ce soit pour n'importe quelle activité.
Mais moi je croyais que c'était interdit déjà.
Et alors en fait c'est effectivement interdit. Tout le monde, enfin on a été beaucoup d'ailleurs, on s'est fait avoir un petit peu entre guillemets de cette annonce parce que on a confiance en Reuters forcément, mais effectivement c'est interdit déjà depuis 2017. La Chine avait pris déjà beaucoup de mesures, notamment les levées de fonds en crypto-monnaie, donc qu'on appelle les ICO, aussi étaient interdits à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça pourrait aussi expliquer ce mouvement. Après c'est toujours difficile de dire pour telle raison on a une hausse très forte ou une baisse aussi très forte des cours, mais en tout tout cas, effectivement, le timing était plutôt bon pour la Chine.
Oui, et soulève quand même quelques interrogations hein, sur l'opportunité d'effectuer une telle communication. Ouais. On a retrouvé Vincent Gann. Vincent, si on regarde la semaine écoulée sur les cryptos d'un point de vue technique, je le disais, le graphique est assez impressionnant.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour Chali, bonjour Ren, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, semaine assez incroyable pour le marché des cryptos, on s'attendait pas à quelque chose de cette nature. Alors bon, je vais pas refaire toute l'histoire, mais voilà les éléments intéressants que je peux dire. Le cours du Bitcoin depuis 2 ou 3 mois, il était neutre, complètement flat. Il était neutre sous les 60 000 $. Il avait laissé la place à ce qu'on appelle la saison des altcoins, avec des mouvements parfois excessifs, très bien. Et puis est arrivé le mois de mai. Alors le mois de mai qu'on sait un peu plus volatile pour le marché action. Et ce que l'on sait, c'est que depuis 12 mois, le marché des cryptos, le cours du Bitcoin, est corrélé positivement au marché action. Alors il y a eu quelques pointes de volatilité sur le marché action. Ça s'est un peu répercuté sur les cryptos. Mais maintenant, le marché action est revenu tout en haut. Et il y a eu une décorrélation avec le cours du Bitcoin. Alors maintenant, faut pas se voiler la face. Hein, au moment où je parle, moins 50% pour le cours du Bitcoin depuis les plus hauts. Alors les raisons, moi j'en vois deux principales, deux grands thèmes d'inquiétude fondamentale qui maintenant sont vraiment sous le feu des projecteurs. Le premier, vous venez d'en parler, la Chine. Alors la Chine, c'est pas vraiment une surprise, vous en parliez à l'instant, notamment parce que c'est le premier grand pays majeur qui a aussi lancé sa propre monnaie numérique, et on sait très bien qu'elle cherche aussi à lutter contre la place des currency tokens de la blockchain publique. Mais là, c'est vrai qu'elle est quand même sacrément offensive dans sa communication contre le cours du Bitcoin d'un point de vue trading. Bon, ce qu'on sait aussi, c'est qu'une partie importante du minage du Bitcoin se fait en Chine. Bon, là-dessus, c'est pas très clair, c'est sûrement un dossier politique. Et puis à cela s'ajoute ce second thème d'inquiétude fondamentale. Alors là, c'est très partisan. Franchement, j'ai pas la réponse. La pollution, voilà, l'impact du minage du Bitcoin sur l'environnement. Les partisans des cryptos expliquent très bien que l'essentiel de l'électricité au service du minage vient de l'énergie renouvelable, mais d'autres insistent sur le fait que ça pollue énormément, voire plus qu'un certain pays. Bref, c'est deux thèmes en même temps, la Chine qui lâche un peu le BTC et puis cette thématique du climat. Et voilà donc l'impact sur les cryptos, voilà l'impact sur le Bitcoin. Bon, il y a un troisième aspect, mais on va en parler plus tard dans l'émission, c'est aussi l'impact énorme qu'il y a eu dans l'accélération de la baisse cette semaine, de l'effet de levier de la dette de marge chez les traders privés, qui a largement accentué la baisse, notamment sur cette session du 19 mai, où le marché a fait une chute à 30 000 $.
Peut-être une relation de cause à effet, Charlie, mais cette semaine, de nombreuses plateformes ont eu des problèmes techniques. Est-ce que c'est habituel ?
Oui, bah, c'est vrai qu'on a connu, comme vous l'avez résumé tout à l'heure, déjà plusieurs fois voilà, des hausses très importantes, des baisses très importantes. Et à chaque fois, il y a des plateformes, alors d'échange de crypto-monnaies qu'on connaît bien, Coinbase, Binance, Kraken, etc. Ou des applications aussi de trading, puisqu'il y en a beaucoup maintenant des jeunes applis qui proposent aussi des cryptos. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, quand il y a beaucoup de monde, bah, ça pète. Et alors que c'est le moment où ça ne devrait pas péter, en fait. Et
C'est un défaut de jeunesse ?
Je ne sais pas, puisque là on est quand même face à des grosses plateformes en plus qui ont des moyens. Alors certes, effectivement, c'est encore jeune, mais Coinbase par exemple, il y a 2 jours, elle a été en panne pendant 1 heure et demie. On pouvait pas retirer ses cryptos. Binance aussi, qui est donc l'équivalent en Asie, même problème. Donc c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant pour des boîtes qui valent très très cher quand même, parce que Coinbase est en bourse, vaut aujourd'hui que 50 milliards entre guillemets, ils ont un peu perdu. Donc évidemment, ça pète, ça devrait pas péter, alors que des fois sur les marchés actions, quand vous avez des hausses, vous avez pas autant de gros courtiers qui connaissent ces désagréments. Après, il y en a quand même beaucoup aussi de plateformes qui ont tenu, mais c'est vrai que globalement, c'est un peu inquiétant. On peut se dire, voilà, effectivement, c'est compliqué de retirer ses cryptos à ce moment-là. Après, il y a aussi tous les problèmes d'enregistrement de nouveaux clients. Ça aussi, ils mettent beaucoup plus de temps. Mais bon, ça, c'est un peu plus compréhensible quand on a effectivement une ruée de nouveaux investisseurs. Pour s'enregistrer.
Alors, ruée de nouveaux investisseurs, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a toujours une confiance dans ces crypto-monnaies. Owen, le Bitcoin, après le recul, le plongeon du début de la semaine, a progressivement repris des couleurs, même si on n'a pas complètement retrouvé les niveaux qu'on avait la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire qu'on a une forme de retour de la confiance ?
Alors, quoi qu'il arrive, cette baisse a remis les pieds sur terre à pas mal de personnes qui pensaient que les crypto-monnaies allaient s'envoler et n'imaginaient rien d'autre que du vert sur leur portefeuille en se levant le matin, et c'est pas plus mal. Déjà, pour beaucoup, ça a nettoyé pas mal de choses sur ce marché, notamment ceux qui n'avaient connu que des hausses depuis le début. Il y a eu quelques bonnes annonces quand même qui sont venues, peut-être un peu tard, mais on a quand même Elon Musk qui a tweeté « Tesla has the Damon Hands », c'est-à-dire, en traduction dans le monde des crypto-monnaies, c'est vraiment « Tesla conserve ces crypto-monnaies », c'est l'inverse des « paper hands », qui sont les personnes qui vont acheter, revendre et prendre des décisions assez rapidement. Donc Elon a envoyé un mouvement inverse à ce qu'il avait livré une petite semaine avant, à croire que ça change de sens toutes les deux minutes, mais pour le coup en disant que même si Tesla n'acceptait plus les bitcoins, Tesla comptait bien conserver jusqu'au bout les bitcoins qu'ils avaient achetés. De la même façon, on a Cathie Wood, qui est la gestionnaire d'un gros gestionnaire d'investissement, qui, elle, explique qu'elle voit toujours, malgré cette baisse, le bitcoin aller taper les 300 000 dollars, ce qui, pour le coup, est une valeur bien au-delà du bitcoin aujourd'hui. Donc, en plus de tout ça, il y a des gens qui en ont profité. Il y a certes des débutants qui pensaient que tout allait monter et que ça ne s'arrêterait pas, mais il y a également des opportunistes qui, eux, ne sont plus du tout affectés par cette panique et qui se sont dit « Ok, tout le monde panique, là on n'est plus dans un mouvement rationnel, on est dans une correction qui va trop loin, des paliers de déclenchement, des personnes qui utilisent des effets de levier qui sont liquidés, ça va descendre les prix ponctuellement pendant de très courts laps de temps à des minimums qu'on pourrait retrouver sur la journée, et donc on va en profiter pour acheter très peu cher. » Et il y a des traders qui ont réussi à obtenir des Ethers à 1900, 1950 dollars pour les revendre quelques minutes après à 2500. Donc là où ça a fait beaucoup de peur à certains, ceux qui ont l'habitude de ce marché et qui le maîtrisent ont pu même saisir de très bonnes opportunités. Alors de là à vous dire que tout le monde est aussi enthousiaste qu'avant toutes ces annonces, non. Je pense que le marché s'est réveillé un petit peu et que ça a rationalisé la confiance qu'on pouvait avoir en les crypto-monnaies sur du très court terme. Mais évidemment, ça a recentré la confiance sur le fait que techniquement, on n'a pas passé certains supports. On a brisé le support des 42 000 dollars, mais on n'a pas brisé celui des 30 000 dollars. Et donc, pour beaucoup, c'est encore une tendance haussière. Maintenant, reste à voir le fil de l'histoire et du coup, les actualités qui vont arriver dans les prochaines semaines.
Avant de s'intéresser aux nouveaux entrants qui ont peut-être pris peur quand ils ont vu cette semaine, Charlie, est-ce qu'on peut rappeler les grandes évolutions depuis le début de l'année ou même depuis un an?
Oui, parce que malgré effectivement là cette chute, voilà, on est quand même sur une très belle tendance. J'ai revu les chiffres parce que c'est vrai qu'on a du mal à prendre autant de recul, mais le Bitcoin a fait plus 36% depuis le début de l'année quand même, c'est pas trop mal. En un an, plus 315%. Et le 21 mai 2020, Bitcoin était à 9 500 dollars. Donc voilà, pour se rendre un petit peu compte de la chose. Ethereum, c'est pareil, plus 323% depuis le début de l'année. Et en un an, il est passé de 209 dollars à 2700 dollars à peu près aujourd'hui. Et on peut voir cette même tendance sur la plupart des grandes crypto-monnaies, en tout cas dans les premières. Vous avez même, j'ai noté, Cardano, plus 800% depuis janvier. Donc voilà, on est sur des montées, des pourcentages assez impressionnant quand même. Je suis pas sûre qu'on trouve d'autres d'autres progressions aussi intéressantes dans d'autres marchés. Même si effectivement il y a quand même quelques actions qu'on d'ailleurs des boîtes qui ont bien profité de la crise, qui ont aussi connu des belles hausses.
Owen, vous disiez à l'instant ça ramène peut-être les pieds sur terre. Ça peut toutefois faire peur aux gens qui viennent d'entrer sur le marché des cryptos. Rappelez-vous, on avait tellement progressé ces derniers mois. On a eu, je pense, pas mal de, je vais pas être péjoratif, mais de touristes qui sont arrivés sur le marché qui ont peut-être eu peur cette semaine.
Alors, très clairement, et évidemment, il y a eu des pertes, donc faut pas le dire de cette façon-là, mais c'est peut-être même pas plus mal, parce qu'il peut y avoir des baisses plus violentes. Là, ça a fait prendre conscience à certains, peut-être qu'ils ne comprenaient pas à quel point le marché des crypto-monnaies pouvait être virulent, mais ça a pu donner un avant-goût, on peut le dire, de ce qui existe réellement dans le monde des crypto-monnaies. En 5 ou 6 ans, j'ai connu des baisses bien plus violentes et des déclenchements qui ont été beaucoup plus sanguinolents sur le marché des crypto-monnaies et qui ne se sont pas autant reconstruits, car quelques jours après, le Bitcoin avait déjà effacé, donc 48 heures après, le Bitcoin avait déjà effacé c'est presque un tiers de la baisse qu'il avait connue il y a 2 jours. Donc pour le coup, c'était une prise de conscience qui n'était pas totalement négative, en tout cas pour tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que c'était pareil en 2017, c'était pareil en 2013, c'est pareil en 2021, c'est-à-dire que quand les crypto-monnaies prennent beaucoup de valeur d'un coup, ça enclenche la machine médiatique. Les médias vont commencer à parler des crypto-monnaies et des médias de plus en plus grand public, ce qui va augmenter le nombre de nouveaux entrants, que ce soit des institutionnels ou des particuliers, qui vont s'intéresser à ce marché. Quoi qu'il arrive, il y aura peut-être, suite à cette baisse, moins de nouveaux entrants sur ce marché. Mais ceux qui vont rester et qui ne vont pas le quitter sont soit des personnes qui ont compris que c'était risqué et qu'on ne devait pas venir que pour la volatilité, ou alors des personnes qui, certes, ont compris qu'il y a ce risque, mais qui s'intéressent réellement à la technologie qu'il y a derrière. Car la seule courbe qui, bien qu'elle freine ou qu'elle accélère de temps en temps, est toujours, toujours en hausse, c'est le nombre de personnes qui s'intéressent à cette technologie. Et bien que ça freine un petit peu et que ça limite l'intérêt dans ce domaine-là, parce que beaucoup de gens venaient uniquement pour prendre des profits sur du très court terme, un peu comme dans le monde de la bulle d'Internet, hein, dans les années 2000, les premières personnes à venir étaient des personnes qui étaient intéressées uniquement par cette volatilité et par cette promesse technologique. Là, ça nettoie un peu le marché et ça permet de conserver et de rappeler à tout le monde que certes, il y a cette plus-value, mais ça ne remet en rien en cause les fondamentaux qui sont la vraie finalité de la technologie blockchain.
Ah ouais, ça n'est pas un casino, ça n'est pas l'euro million, on ne gagne pas à tous les coups. Charlie, un mot, est-ce que vous avez observé dans cette marée noire des signes positifs ?
Oui, quand même. Si on cherche un peu, non, même depuis hier, il y a eu quelques belles annonces, notamment voilà, côté, il y a des boîtes qui ont profité justement de cette baisse. On connaît bien MicroStrategy, puisqu'il y a déjà beaucoup investi, hein, des milliards de dollars dans le Bitcoin. Et ben, ils ont annoncé voilà qu'ils ont justement fait un nouvel investissement de 10 millions. On a eu aussi Wells Fargo, donc grande banque américaine, qui a annoncé qu'elle allait proposer voilà, pareil, des services d'investissement en crypto prochainement. On a eu aussi Saxo Bank qui vient de lancer aussi du trading sur plusieurs paires de crypto-monnaies, bon, pas encore partout dans le monde, mais il y a quand même, voilà, ça n'a pas non plus fait un froid, puis on n'a pas eu encore d'annonce de, voilà, par exemple Tesla qui a dit j'ai revendu tous mes bitcoins.
On va donner le mot de la fin à Vincent Gann, analyste technique chez TradingView. Le bilan de cette semaine, Vincent ?
Oui, alors il y a plein de choses qui viennent d'être dites intéressantes en plateau. Je suis assez d'accord avec ce que disait Owen sur le côté purge nécessaire, parce qu'il y avait eu énormément d'excès, alors pas forcément sur le Bitcoin sur les dernières semaines, mais plus du côté des alt, beaucoup même, enfin voilà, on a dû lire de shitcoin qui montait pour sur rien du tout, des performances à 3-4 chiffres basées sur du vent. Donc ça, c'est la première chose qui me semble intéressante. Le deuxième aspect, vous en parliez aussi à l'instant, c'est le côté effet de levier qui était beaucoup trop important, encore une fois, chez les traders privés. Et logiquement, ces positions sont protégées par des stops de protection en trading. Et lorsque le prix du stop est atteint, ça devient un ordre de vente au marché. C'est ce qui a expliqué les mèches basses, les points bas importants qui ont été touchés cette semaine. Maintenant, là aussi, il ne faut pas se voiler la face. On sait que, à la grande différence de 2013 ou 2017, partie importante de la hausse depuis un mois, en fait, depuis un an, elle a été aussi portée par du flux institutionnel. Et maintenant, voilà, c'est l'heure de vérité. Les masques doivent tomber. Typiquement, lorsqu'on a comme ça une baisse de 50% depuis les plus hauts, si les institutionnels, petit à petit, se sont vraiment davantage ouverts aux cryptos, notamment la haute finance américaine, si elle a vraiment l'intention d'ouvrir une partie de ses capitaux, la gestion d'actifs, aux crypto-monnaies, ouais, eh bien, c'est maintenant qu'on va être fixé, voir s'ils vont acheter le creux ou pas. Donc, c'est vraiment une semaine cruciale. Et enfin, simplement, le mot de la fin.
Très vite.
Le seuil a déjà été cité, le seuil des 40-42 000 dollars. Ce sera quand même extrêmement pérenne sur le plan technique que ce soir, le marché parvienne à le préserver.
Merci beaucoup, Vincent Gann, analyste technique chez TradingView. Merci à vous. En plateau, Charlie Perrault, journaliste au Journal du Net. Et merci à Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube. Asher, merci à tous les trois. C'est la fin de cette édition des Pros des Cryptos.